En Marge, une émission qui met en lumière des livres trop peu connus. La première règle du Fat Club est « Il est interdit de parler du Fat Club ». Sauf qu'aujourd'hui, nous allons transgresser les règles de Tyler pour vous parler du Fat Club, mais peut-être pas de la manière dont vous croyez. Bienvenue dans cette émission où on discute de livres en marge. Pour ce tout premier épisode, nous n'allons pas aller de main morte puisqu'on va traiter de quelque chose de lourd, Fat Club. Vous allez peut-être me dire « Ah oui, le film avec Brad Pitt ». Alors oui, mais non. Nous allons plutôt vous parler de sa version papier, du roman qui est à la source même de l'adaptation cinématographique que tout le monde connaît. Vous l'avez sûrement deviné par le titre, le concept de cette émission littéraire est de vous faire découvrir des œuvres littéraires qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire. Il ne sera pas question de grands classiques, de best-sellers, mais d'œuvres que vous ne trouvez pas forcément dans la bibliothèque familiale, dans votre wishlist ou sur le BookTok. Fight Club s'est imposé un peu par hasard. Si on vous raconte comment on a eu l'idée de vous le présenter, c'est qu'on se baladait dans les rayons et nous l'avons aperçu, au milieu de livres de science-fiction, se démarquant des autres par son titre, Fight Club, dont on était persuadé que ce n'était que le film de David Fincher. Mais que nenni, à l'origine, c'est un livre. En discutant autour de nous, on a constaté cette même réaction, celle que l'on a eue aussi. Il est vrai que le film, aussi culte qu'il soit, a totalement mis dans l'ombre l'œuvre dont il est tiré. Un traitement assez injuste car le livre est tout aussi, voire plus passionnant, violent, profond, bref, tout ce qu'on aime. Et dans ce premier épisode, nous allons mettre en lumière le premier roman de Chuck Palahniuk, Fight Club, paru en 1996, qui a eu l'effet d'une bombe sur toute la pop culture, ou sous-culture, comme disent les plus vieux. Alors nous allons parler du Fight Club, même si on n'est pas censé en parler.
Maintenant, un peu de lecture. La première règle du Fight Club, dit Gros Bob, c'est qu'on ne parle pas du Fight Club. Le mercredi, le jeudi et le vendredi soir, Tyler est projectionniste de cinéma. J'ai vu sa fiche de salaire la semaine dernière.
La deuxième règle du Fight Club, c'est qu'on ne parle pas du Fight Club. Le samedi soir, Tyler va au Fight Club avec moi.
Seulement deux mecs par combat. Le dimanche matin, nous rentrons à la maison moulus de coups et nous dormons tout l'après-midi.
Un seul combat à la fois. Le dimanche et le lundi soir, Tyler fait le serveur.
On se bat sans chemise ni chaussures. Le mardi soir, Tyler est à la maison, occupé à fabriquer du savon qu'il enveloppe de mouchoirs en papier avant de l'expédier, la compagnie de savon de Paper Street.
Les combats, dit Gros Bob, durent aussi longtemps que nécessaire. Ce sont les règles inventées par le mec qui a inventé le Fight Club. Gros Bob demande.
Tu le connais ?
Je ne l'ai jamais vu, personnellement, dit Gros Bob. Mais ce mec s'appelle Tyler Durden, la compagnie de savon de Paper Street. Est-ce que je le connais ? Je sais pas, je dis. Peut-être bien.
Bien sûr, on pense à ceux qui n'ont ni lu le livre, ni vu le film. Bien sûr, on vous le recommande. Alors, Fight Club, c'est quoi ? C'est un roman qui est à la fois science-fiction, fable philosophique, roman noir et farce délirante. C'est le quotidien ordinaire et ennuyeux d'un homme de la classe moyenne qui souffre d'insomnie. C'est aussi une soudaine passion pour les groupes de soutien, groupes avec des personnes qui souffrent de parasites ou de cancer. Bref, des personnes qui voient leur mort prochaine. C'est un narrateur qui emprunte plusieurs noms, qui aime les marques, qui a besoin du dernier meuble suédois. C'est la rencontre avec Tyler Durden. C'est des combats clandestins, des règles d'un club dont on ne doit pas parler. C'est deux hommes sans chaussures et sans ceinture qui se battent jusqu'à ce que quelqu'un déclare forfait. C'est la liberté dans l'autodistraction. C'est beaucoup de savon. C'est la mise en place d'un projet chaos pour toucher le fond et être enfin libre. Maintenant, j'invite ceux qui n'en ont aucune idée de quoi je parle à enregistrer ce podcast, faire pause, de vous documenter, même en regardant juste le film, je vous pardonne bien sûr, car nous allons certainement spoiler le plot twist qui a fait tout l'intérêt de l'intrigue. Pour ceux qui connaissent déjà le film mais qui n'ont pas lu le livre, comme nous il y a un mois, on montrera l'intérêt de cette lecture, même en connaissant la fin, pour la pleine compréhension de l'œuvre de Palahniuk.
Souvent, quand on commence une analyse d'une œuvre, surtout une œuvre écrite à la première personne avec un narrateur interne, on parle justement du narrateur, du personnage principal, on le présente, par exemple, c'est l'histoire de machin truc. Sauf que de toute l'œuvre, à aucun moment, on mentionne le nom de l'auteur. En fait, on ne sait pas grand-chose du narrateur, justement. Il ne se décrit pas, il ne parle pas énormément de lui, mais simplement, il parle, décrit, juge surtout les autres. Ce que peut nous offrir éventuellement le livre, c'est une sorte de portrait d'un homme dans la moyenne qui est dans la consommation. Par exemple, dans cet extrait. Nous avons tous le même fauteuil Joanneshkov à rayures vertes strines. Le mien a dégringolé de 14 étages, en flammes, pour tomber dans une fontaine. Nous avons tous les mêmes lampes en papier Rislampa à fabriquer en fil métallique et papier non blanchi, inoffensif pour l'environnement. Les miennes sont des confettis. Tout ce temps passé, assis dans les toilettes, le service de couvert, allez, acier inoxydable, lavable en lave-vaisselle. L'horloge Muraville en fer galvanisé, oh, il fallait absolument que je l'aie. Les étagères de rangement Klipsk, oh ouais, les boîtes à chapeau en mlic, oui. La rue devant ma tour étincelée de débris de tout ça, jonchant le sol. La parure de lit avec couette Momala, conception Thomas Harila, est disponible dans les coloris suivantes. Orchidée, fuchsia, cobalt, ébène, noir de jais, coquille d'œuf ou bruyère. Il m'a fallu une vie entière pour acheter tous ces trucs. La structure laquée d'entretien facile de mes tables d'appoint Calix, mes tables gigognes Steg. On achète des meubles, on se dit, ce sera le dernier canapé dont j'aurai jamais besoin de toute mon existence. On achète le canapé, et pendant quelques années, on se satisfait du fait que, quoi qu'il puisse arriver, au moins, on a réglé le problème du canapé. Et ensuite, le bon service de table, ensuite le lit parfait, les rideaux, le tapis. Ensuite, on se trouve pris au piège de son adorable nid d'amour, et les choses qu'on possédait, ce sont elles qui vous possèdent maintenant. Dans le livre, on a souvent l'usage du pronom personnel « nous », donc avec la mention de marque, de référence que l'on connaît, qui ancre l'histoire dans le monde réel. En fait, il y a toute une focalisation sur, ici, les meubles Ikea, ou même les vêtements de marque, qui font référence à la consommation de la classe moyenne. Cela montre que le narrateur se résume lui-même comme un être parmi la foule, qu'il est un monsieur tout le monde, avec cette universalisation qui anéantit l'expression de son individualité. Au final, on sait mieux ce qu'il a dans son appart ou son armoire que sa propre identité. Aussi, l'usage du « vous » qu'on retrouve souvent quand il se réveille dans un nouvel endroit, vous vous réveillez à O'Hara, vous vous réveillez à LaGuardia, vous vous réveillez à Logan. On a une déconstruction, voire destruction de l'individu, car le pronom « vous » expulse le « je » et va s'intéresser surtout à intégrer le lecteur, comme s'il voulait se dédouaner de toute responsabilité. C'est quelque chose qui ne contrôle pas ce qu'il... C'est quelque chose qu'il ne contrôle pas, il ne contrôle absolument pas ce qu'il fait, et il n'a absolument aucun souvenir de comment il en est arrivé là. Mais bon, ses problèmes de sommeil semblent soudainement s'améliorer. Aussi, je voulais revenir sur l'histoire d'anonymat avec le nom absent du narrateur. Il faut savoir que le but du livre, du style et de l'intrigue de l'auteur, c'est de nous perdre, de nous embrouiller, car le narrateur lui-même est embrouillé. On le verra juste après. Donc logiquement, l'identité du narrateur est troublée dès le départ, face à la profusion de descriptions, de constats, de son trait de vie assez plat, ennuyeux d'un personnage qui se veut relativement banal. On sait qu'il est insomniaque et en souffre terriblement. Son médecin, presque sur le ton de l'ironie, l'incite à avoir le vrai malheur dans les groupes de soutien de cancer, de parasites. Sauf que le narrateur prend ce conseil littéralement et se prête au jeu et il prend plusieurs identités pour chaque groupe de soutien. Il le dit lui-même, je ne donne jamais mon véritable nom. Le narrateur s'impose alors un anonymat qui le protège superficiellement de la culpabilité d'être un imposteur, un faux mourant au milieu de vrais mourants dans ces groupes de soutien où il cherche, par catharsis, un moyen d'être sauvé d'une souffrance qu'il s'approprie en observant le malheur des autres. Il réalise d'ailleurs son imposture quand une autre personne a le même projet que lui, Marla, une femme qui se rend au même groupe de soutien pour le cancer des testicules. Bon, pas besoin d'expliquer qu'elle n'est pas censée être là. Et ce qui m'avait perturbé dans le livre, mis à part ne pas connaître le vrai nom du personnage, ce sont ces phrases que je vais vous lire. Le Reader Digest, l'humour en uniforme. Je suis Joe, le canal cholédoque en furie. Je suis Joe, les dents grinçantes. Je suis Joe, les naseaux qui fument. Je suis Joe, les jointures crispées toutes blanches. Je suis Joe en furie, le sentiment de rejet très enflammé. D'où sort ce Joe ? On sait que le narrateur avait trouvé des magazines généralistes, The Reader's Digest, où des articles scientifiques mettaient en scène des organes qui expliquaient leur fonctionnement à la première personne. Je suis le corps de Joe, ou Jack, dans le film, car ces articles existent réellement. Donc, par souci de droit d'auteur, ils ont changé le nom de l'article. Donc voilà pour la parenthèse. Et donc, au lieu d'expliquer clairement ces états d'âme, ils utiliseraient cette drôle de formulation et ils se qualifieraient comme une partie du corps de Joe. On pourrait alors se dire que le personnage s'appellerait réellement Joe, et le fait d'avoir vu son prénom ainsi présenté dans ses articles, avec cette formulation bizarre, l'inspirait pour parler de lui, de ses émotions. Mais cela ne reste qu'une théorie, car l'auteur lui-même avoue ne pas connaître le nom du narrateur. Je dirais alors que le narrateur utilise cette formulation pour mettre en avant les émotions qu'il traverse à travers la notion de corporéité, ce qui se rapprocherait du sensoriel. C'est par le corps, le mouvement, l'action qu'il parvient à se décrire. C'est pourquoi il se définit par le corps de Joe, nom générique qui montre la quête du sujet héros, le narrateur, qui veut se réapproprier son individualité en mettant ses sensations à l'épreuve par le combat. En effet, selon Pierre-Louis Patoine dans son article Les muscles du choc polanique, le punch de la littérature empathique, l'objectif de l'auteur est de s'inscrire dans une littérature physicaliste et empathique, c'est-à-dire une littérature où le lecteur parvient à s'identifier grâce aux sensations, aux mouvements, à l'action. Le style de l'auteur repose sur l'action, et c'est vrai que Fight Club ne manque pas d'action, justement. C'est un style dit « fait de verbe » qui, je cite, « remplacerait l'identification sympathique par la résonance empathique avec l'action, qui est indissociable du désir de cet auteur de faire lire ce qui lise peu ». Donc l'auteur présente alors une sorte de vision du monde où le projet d'une littérature capable de toucher physiquement son lecteur devient un antidote au phénomène d'abstraction postmoderne, c'est-à-dire à la double perte de sens et de la sensation. Ces deux phénomènes s'inscrivent alors comme l'opposant principal à la quête existentielle du sujet héros, le narrateur qui, face à cette crise identitaire, va trouver une réponse en faisant une rencontre qui va profondément l'écorcher, autant mentalement que physiquement.
Maintenant, il serait intéressant de s'intéresser à la naissance de Tyler et ainsi de l'ascension de cette violence. C'est vrai, quand vous regardez le film ou quand vous lisez le livre, la chute de l'histoire est l'effet d'une bombe. En effet, nous suivons la vie d'un narrateur quelque peu désordonné, perturbé et surtout en marge. Néanmoins, son quotidien est banal, un emploi stable, des conditions de vie raisonnables. Et pourtant, derrière cette banalité se cache un profond désespoir et une touchante solitude. C'est alors que nous pouvons observer de nombreux indices annonçant la compensation de cette solitude, à savoir avec une rencontre inopinée qui va sceller un destin décadent pour le narrateur. Ainsi, je voulais vous parler de la rencontre avec Tyler. Comme un enfant caché, Tyler se cachait en Joe ou Jack, et cette rencontre n'a qu'accentué sa présence jusqu'à sa chute. Et là, je cite, « Tyler était là depuis un long moment déjà lorsque nous nous sommes rencontrés. » Pas besoin d'une grande explication, mais l'utilisation ici de l'imparfait et de l'adverbe « déjà » renforce cette idée d'une durée plus ou moins longue dans laquelle Tyler était là, dans les pensées du narrateur. D'autre part, quand je parle de la naissance de Tyler, je parle d'une naissance au sens propre, physique, qui par la suite prend une dimension plus morale. En effet, le lieu de la naissance, c'est quoi ? Une plage nudiste. Tyler était nu, en sueur, la peau grumeleuse de sable, les cheveux raides et mouillés qui lui tombaient dans la figure. Ainsi, on assiste à la genèse d'un couple identitaire. Ce couple identitaire reste dissimulé, du moins en apparence, et ne paraît pas fonctionner ensemble et coexister. Mais encore une fois, les indices, moins bien cachés, trahissent ce secret. Et là, je cite encore une fois, « Nous étions les seules personnes sur la plage. J'étais la seule personne à assister à ce qu'il se passait, ou encore, il fallait que je sache ce que Tyler faisait pendant que je dormais. Le narrateur est seul, et cela corrobore la suspicion d'un espèce de délire, d'une forme d'isolement propice à un dédoublement. » D'ailleurs, ce dédoublement est très visible, perspectible, tout est question de perfection. Il m'a dit qu'à 16h30, la main avait été parfaite. La main d'ombre géante avait été parfaite une minute durant, et l'espace d'une minute parfaite, Tyler s'était assis au creux d'une pomme de perfection qu'il avait été en personne. Un instant était le maximum qu'on ne pourrait jamais atteindre de la perfection. Donc ici, on peut voir qu'il y a une espèce de dédoublement parfait, une symbiose suprême. Ils sont deux âmes dans un même corps, ou alors deux corps dans deux âmes identiques, finalement. Et alors, on peut se demander qui est Tyler ? Quel est son intérêt dans la vie du narrateur ? Entre plutôt expiation, défouloir ou catharsis ? Donc d'abord, Tyler est source de confusion. D'abord de confusion mentale et temporelle. Il perturbe le narrateur dans son cadre spatio-temporel. Par exemple, on voit une forme d'imprécision dans le cadre temporel. Un long moment, savez-vous quelle heure il est ? Quelques minutes durant, un moment différent. Donc cette forme d'imprécision est subie par le narrateur et ancre une dimension presque onirique, irréelle. Et de plus, Tyler est un maître et le narrateur son disciple. Et il joue presque le rôle d'un précepteur. Et on le remarque aussi au moment justement de la naissance, de la jeunesse, de ce dédoublement. Par exemple, quand il dit « Tyler m'a appelé, Tyler m'a montré, il m'a dit, En réalité, Tyler ici détient le rôle presque de guide perturbé, d'éducateur intempestif. Et en ce qui concerne donc la gradation de la violence, donc depuis l'arrivée de Tyler, en effet, les premières scènes de violence apparaissent lorsque Tyler demande au narrateur de lui asséner un coup au visage, notamment lorsqu'il lui dit « Je veux que tu me frappes aussi fort que tu le peux ». Cette violence est sanglante, voire animale. J'ai le goût du sang dans la bouche, mes lèvres s'engluent de sang, la bouche brillante de sang et le sang en train de s'insinuer dans les espaces entre mes dents. Donc ici, on assiste à une forme de fascination pour la douleur et ses séquelles. D'autre part, la philosophie de Tyler est par extension celle du narrateur, et la suivante, c'est celle de toucher le fond pour enfin être libre. Et c'est notamment donc avec l'apparition des Fight Club, où il dit que nulle part on est vivant que quand vous êtes au Fight Club. Et en ce sens, nous pouvons rappeler la scène où Tyler embrasse la main du narrateur, puis lui verse une solution chimique, lui brûlant la main. Ainsi, cet acte peut prétendre à une forme d'autodestruction. Et c'est notamment cette scène de confrontation où Tyler lui dit de revenir à la douleur. Et cette automutilation peut être considérée comme une forme de sentence, un châtiment donné à soi-même. D'ailleurs, on apprend aussi que c'est le narrateur lui-même, finalement, qui a fait carrément sauter son propre appart. Et il dit que cela est guérir, donc du mal par le mal. Et donc ainsi, les combats sont la mise en scène des pulsions et bestialités humaines, et Tyler gagne en puissance, et son rôle de maître, de gourou, se multiplie. Les Fight Club sont devenus des séances d'accomplissement de soi, où les adhérents doivent réaliser la tâche que Tyler leur ordonne, un peu comme des devoirs donnés par notre professeur. Et à l'instar d'un devoir scolaire, ils obéissent aux missions. Enfin, nous pouvons quelque peu trouver une intertextualité, une référence camusienne à travers le détachement du narrateur. On appelle cela la didactique ironique. On a l'impression qu'il récite des informations sans vraiment les assimiler. La recherche du comportement antisocial au travers des combats, l'exclusion, voire une ataraxie malsaine est présente dans l'œuvre, notamment de l'étranger de Camus. Et en effet, le comportement apathique du narrateur est tout à fait en accord avec celui de Meursault, le personnage dans Camus, qui est en quête d'émotion, d'ivresse et de liberté. Maintenant, il convient de voir en quoi c'est une fin annoncée, et donc c'est en cela qu'on va parler du chaos de cette œuvre. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans le livre, c'est la préfiguration donc, du dédoublement de la personnalité. Notamment lorsqu'il dit « ça ne suffit pas que nous soyons la même personne ». Il essaie de se justifier, de se convaincre que Tyler n'est pas un double, qu'il ne délire pas, ou encore « je suis la bouche de Tyler ». Mais là, petit à petit, le narrateur ne fait plus qu'un avec son double. La frontière est très fine entre leurs personnalités, et elle devient poreuse, car Tyler finit aussi par le contrôler, même quand il est réveillé. On l'a vu dans la scène avec la rencontre qui semble être un rêve du narrateur, et Tyler représente tout ce que le narrateur aurait voulu être, une sorte d'individu totalement libre à travers une pensée anarchique. D'autant plus que l'œuvre peut être la critique d'un nihilisme qui allait trop loin, qui finit par se contredire. Les membres du Fight Club cherchent la liberté mais finissent par devenir esclaves de ce plan avec la mention de singes de l'espace pour qualifier les sortes de larbins du plan chaos qui sont complètement déshumanisés et soumis au plan de Tyler. Cette pensée nihiliste est une idéologie qui rejette toute croyance et refuse toute contrainte sociale. C'est la thèse du philosophe Nietzsche. Comme quoi l'existence dans le monde qui nous est proposé n'a aucun sens car elle n'est pas juste. On est contraint par différentes valeurs et croyances qui nous rendent faibles et nous empêchent d'agir. Les hommes forts arrivent à abandonner ces valeurs et à abandonner Dieu pour construire ses propres valeurs. Et le nihilisme est non seulement la croyance donc, que tout mérite de périr, mais qu'il faut détruire. Et c'est tout à fait ce que semble vouloir atteindre Tyler. On peut presque dire que c'est une forme d'égérie du surhomme, théorisée par Nietzsche, une forme d'être totalement libre, qui, après la fin de la croyance de Dieu, doit redonner un sens à l'histoire, à l'existence, en faisant valoir son autonomie et sa volonté de puissance, c'est-à-dire une pulsion chez l'homme qui le pousse à chercher l'accroissement de sa puissance. Les Fight Club, entre autres, sont des lieux qui permettent aux membres d'exercer leur volonté de puissance dans une sorte de bulle qui autorise ses pulsions. De ce fait, la philosophie de Dyler, basée sur l'autodestruction, semble offrir une solution pour le narrateur qui veut justement se défaire de l'emprise et des règles établies par Tyler lui-même. Tyler le dit, pour qu'il puisse être enfin libre, il faut qu'il touche le fond. Donc c'est quelque chose qui revient de manière assez redondante dans l'œuvre. Et le fait, il le fait en se tirant une balle dans la mâchoire à la fin de l'œuvre, et cela met fin à leur duo. L'alignation du narrateur a créé un personnage fantasmé qui, dans son sommeil, exaucerait toutes les pulsions qu'il n'est pas capable de réaliser le jour. Mais la philosophie de Tyler, comme effet papillon, finit par gagner une sorte d'inertie qui mène à la destruction. Donc le chaos est inarrêtable. Et la fin de l'œuvre, qui n'est pas dans le film, est une invitation à découvrir cette fin qui fait un peu froid dans le dos. Et donc le chaos est inarrêtable et la perte de contrôle du narrateur face au plan de Tyler, ce double qui a pris le contrôle de sa vie et de la ville.
Donc Tyler Durden, double fantasmé par l'inconscient du narrateur, montre cette rage d'exister. La réalisation de soi passerait par la destruction de la civilisation, d'où la nécessité du projet chaos, pour retrouver un monde plus essentiel où l'humain serait au centre et reprendrait sa juste place. La vision masculiniste et nihiliste de Tyler est en fait fortement dénoncée par l'ironie, un espèce de rire jaune qui hante l'ensemble de l'œuvre. La violence est exacerbée et perd tout son sens au fur et à mesure de l'œuvre. Les différentes représentations que nous avons exposées retranscrivent les visées physicalistes, anti-littéraires et anti-culturelles de l'auteur. Ces personnages se mettent en action pour résister à l'aliénation, à la soumission imposée par la société et offrent une fiction où la désobéissance est fantasmée finalement à tort. Cette dénonciation n'a pas toujours été bien vue avec le simple visionnage du film qui ne peut pas marquer tous les aspects subtils comme l'ironie ou le rire jaune de l'auteur qui tourne en ridicule cette violence excessive. Le film, peut-être plus que le livre, a souvent été accusé de dresser l'apologie de cette quête de liberté et de sens par la destruction. Et la démarche de Tyler partait sur une bonne intention au final, c'est-à-dire d'arriver à exister dans une société qui invisibilise les gens qui la servent. Tyler est apparu dans l'inconscience du narrateur pour le sauver de l'aliénation, l'ennui et ses problèmes de sommeil. Seulement, le narrateur qui cherche à vivre par les sensations pour enfin sentir quelque chose va se tourner vers la douleur jusqu'à l'autodestruction, ce qui est une solution que l'auteur ne conseille à personne, comme je vais vous lire dans cet extrait. « Je ne suis pas en train de me tuer, je hurle. Je suis en train de tuer Tyler. Je suis Joe, disque dur. Je me souviens de tout. Ce n'est pas de l'amour ou rien de tout ça, s'écrie Marla, mais je crois que je t'aime bien aussi. » Une minute. Marla aime bien Tyler. « Non, c'est toi que j'aime bien, » s'écrie Marla. « Je suis la différence. » Et rien. Rien n'explose. Le canon de l'arme enfoncé au creux de ma joue survivante. Je dis « Tyler, tu as mélangé la nitro et la paraffine, pas vrai ?»« La paraffine ne marche jamais. Il faut que je le fasse. » Les hélicoptères de la police et je presse la détente. En tout cas, la lecture de cette œuvre a offert une toute autre vision de ce qu'on connaissait avec le film. Et lire le livre en connaissant l'intrigue nous a fait apprécier le déroulement de l'action, la profondeur des personnages, et nous a permis de le comparer avec la version de Fincher, et surtout de réfléchir sur les véritables intentions qui découlent de Fight Club, et aussi de nous concentrer bien sûr sur le style, la narration proposée par cette littérature innovante, violente, qui n'hésite pas à nous confronter avec les plus profonds tabous de notre société. Merci de nous avoir écoutés, c'était Marianne et Missa.